France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
C'est fou comme on a l'impression de se répéter parfois. On croit que l'évidence a déjà été dite et redite, tellement dite que 4 millions de personnes sont descendues dans la rue il y a 5 ans pour dire évidemment la liberté d'expression, la liberté de caricature, la liberté d'irrévérence. Toutes sont intouchables. On peut ne pas aimer les caricatures corrosives, on peut même ne pas aimer Charlie, mais ce qu'est Charlie, ce qu'il représente, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est notre liberté. Et pourtant, il faut y retourner, réexpliquer et redire, parce que 5 ans ont passé et que cette liberté d'expression a été mise à mal bien des fois. Ce matin dans le journal, Rhys, dans Charlie évidemment, Rhys écrit que plus Charlie se réappropriait sa liberté ces 5 dernières années, plus il faisait de mécontents. Il n'y a pas que Charlie, tout dessinateur de presse aujourd'hui vous dira que c'est plus compliqué, il y a des mots qui sont désormais interdits, on attend que vous soyez drôle, que vous soyez corrosif, mais quand même pas trop pour ne choquer personne. Jusqu'à quel point, même aujourd'hui, les dessinateurs sont-ils contraints, pour certains, à l'autocensure? Et d'ailleurs, tiens, y a-t-il un journal autre que Charlie qui ait dessiné un petit Mahomet récemment? Que dire du New York Times qui a battu en retraite cette année? Incroyable renoncement. 2019 sera l'année où, entre liberté d'expression et revendication de certains offensés, la balance a penché pour le New York Times du mauvais côté. Nous n'avons pas renoncé, nous en France, Charlie encore moins que les autres. Charlie, toujours garant et gardien d'une tradition d'irrévérence, mais nous voilà donc à redire où est la transgression, redire ce qui est permis par la démocratie, redire les différences entre l'irrévérence et l'apologie du crime, entre les moquerie contre un homme et le racisme contre un groupe, entre l'humour et la propagande de haine. Il faut redonner des codes, apparemment, redonner des clés. Eh bien, faisons-le, réexpliquons, redisons, c'est le moment et soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour répondre à toutes vos questions ce soir, pour être là ensemble et débattre jusqu'à 20h, Coco est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dessinatrice évidemment dans Charlie, vous êtes aussi scénariste et vous avez fait de la bande dessinée. Bonsoir à vous, Laurent Bille.
Bonsoir.
Maître de conférence à la Sorbonne Paris 1, vous êtes co-auteur de La caricature et si c'était sérieux aux éditions du Nouveau Monde. Au Nouveau Monde édition, et c'est intéressant parce que ça a été publié juste après Charlie en 2015, vous l'avez réétoffé parce que effectivement, il y a d'autres choses à dire. Je voudrais qu'on commence avec ça, Coco, si vous le voulez bien. Il y a cette phrase que j'ai citée de Rhys et qui dit que ces 5 dernières années, plus Charlie s'est réapproprié sa liberté, plus il a fallu se battre. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez ressenti?
Oui, pas mal, parce que en fait, après l'attentat, les codes ont un peu changé. On est devenu, malgré nous, quelque part des symboles. L'attentat a résonné mondialement et du coup, tout le monde s'est intéressé au petit journal qu'on était et qui, auparavant, ne parlait qu'à un petit lectorat. Et aujourd'hui, on est confronté à des réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent le journal et qui sont à même aussi de le critiquer, voire de vouloir l'empêcher de parler.
Le sens de la une, effectivement.
Le sens de la une et aussi le sens de la page 2 du journal de cette semaine qui retrace, par exemple, simplement les menaces de mort qu'on peut encore recevoir aujourd'hui. Là, c'était sur un petit recueil de l'année 2019,
ouais.
Des trucs qu'on aime faire pour qu'on se rende compte aussi.
Et est-ce que ça vous a étonné au fond? En fait, je vais le dire de deux manières différentes. Un, est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que ça vous a chagriné? Ou au fond, est-ce que, en creux, tant mieux si on continue aussi à générer ce genre de débat et à gêner au fond? Les trois, mon capitaine, on peut le dire.
C'est vrai qu'on peut dire les trois, mais vous résumez bien la chose. Quelque part, on peut que déplorer que les choses aillent dans ce sens, que les gens soient un peu frileux, voire carrément tout est susceptibilité. Mm-hmm. On peut que déplorer ça. Mais quelque part, notre métier de dessinateur et en particulier dessinateur de presse, c'est de critiquer ça justement. Donc quelque part, on a presque envie de dire mais allez-y, continuez, ça nous fait du boulot.
Laurent Bille, est-ce que alors effectivement il y a les réseaux sociaux qui ont tout changé peut-être dans ces 5 dernières années, ils existaient déjà, ils ont pris une ampleur qui était différente, mais qu'est-ce qui s'est passé selon vous dans ces 5 ans-là pour qu'un dessinateur de presse aujourd'hui, alors heureusement moins un Charlie qu'ailleurs, mais hésite parfois en posant son crayon sur son papier?
Ce qui s'est passé, c'est des morts.
On est d'accord au lendemain de Charlie, mais dans les 5 ans qui
viennent... Non, mais dans les 5 ans, il y a quand même ce poids. Bon. Mm-hmm. Ensuite, je voudrais réagir, parce que les courriels dont on parle, mm-hmm. dont vous faites état, quand on ouvre Charlie Hebdo, mm-hmm. et qu'on voit la teneur de ces courriels, mm-hmm. Vous savez, je suis quand même, je suis blindé, hein.
Ouais, ouais.
Et quand même,
ouais.
La bouche s'ouvre. Mmh. Et je voudrais dire qu'il y a une différence entre la violence de ces courriels et la violence satirique, parce qu'on a souvent tendance à les mettre en regard l'un de l'autre. Or, pardon, mais d'une part, pour reprendre l'expression de Laurent Geoffrin de ce matin dans Libé, on a un enjeu à pacifier la société par le rire. Et d'autre part, une caricature est signée, alors que ce genre de courriels sont anonymes. Et je pense que ça fait toute la différence et qu'il ne faut absolument pas parler d'une violence échelonnée où les deux se répondraient. Ils ne se répondent pas. Ce n'est pas la même chose. La caricature, c'est un pas de côté. Et ben, ce qui fait peur, c'est que petit à petit, la possibilité de ces censeurs blogueurs, de ces perles à pudeur par Internet, finalement imprime un sentiment effectivement de peur, de recul, d'anticipation, mais aussi quand même, je vous rappelle, la presse écrite est pas du tout en bonne santé, et on aurait pu penser que ce qui s'était passé il y a 5 ans aurait plutôt dopé, en tout cas poussé certains à vouloir doper la place du dessin satirique dans la presse. Et la réalité est bien triste, parce que c'est plutôt
inverse,
le contraire.
D'ailleurs, et même inverse, c'est ce que Chapat dit dans votre livre au moment où le New York Times décide de renoncer. Au fond, il dit « bah ouais, mais il faut que les journaux se vendent, donc si on commence à chagriner les uns et les autres, les journaux ne se vendent plus ». Est-ce que vous avez l'impression, vous, Coco, quand vous voyez vos confrères, en revanche, qu'on est devenu plus timoré, plus timide dans le dessin à cause de cette peur-là, en fait?
Vous parlez de quels confrères exactement?
Ah bah alors de ceux les journaux qui ont encore des dessins, j'allais dire hélas parce qu'il y en a de moins en moins, mais
j'ai l'impression
ça existe encore.
Le Canard remplit encore bien son rôle de dessin satirique. Enfin, c'est un journal que j'aime lire. Après, je voudrais pas m'exprimer au nom de tous les dessinateurs de presse, mais c'est vrai que on a pu sentir que certains avaient peur et peur de dessiner après ce qui s'était passé, mais peur aussi avec cette espèce de politiquement, Richard Malka l'a dit dans le journal cette semaine, c'est tyranniquement correct, cette espèce de bien-pensance actuelle freine les gens dans leur création, ou même dans, pas forcément sur le terrain du dessin, parfois dans ce qu'ils disent, comme vous l'avez dit, pour pas choquer, pour pas choquer des groupes, pour pas choquer des gens.
Il dit même plus que ça, Malka, dans Charlie, il dit « la justice ne tiendra pas éternellement ». Ça veut dire que jusqu'à présent, effectivement, la justice défend cette liberté d'expression-là et vous protège, mais il dit « la justice ne tiendra pas éternellement ». Ça veut dire qu'à un moment, ces digues-là peuvent sauter et que ce que décrivait Laurent Bille tout à l'heure peut submerger la digue de la justice, selon vous, c'est à craindre? Je vous poserai la même question, Laurent Bille,
aussi. Oui, sans doute, c'est à craindre, puisque à trouver des prophètes inattaquables pour tout et n'importe quelle cause, et ben finalement, si tout le monde se freine, on va vers une société où effectivement, on peut plus rien dire. Alors, je n'aime pas du tout ce
fameux
truc.
On peut plus rien dire.
Oui, franchement, c'est tellement bateau, on ne peut plus rien dire, mais ça dépend de nous. Ça dépend de chacun de nous, de dire, de créer, d'y aller, quoi, en fait, d'oser.
Laurent Bille, sur la digue de la justice.
La justice,
en fait,
est une grande sereine qui prend son temps. La justice que nous avons aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi favorable, est une résurgence des années 80. Il faut voir que dans les années 60-70, on peut le voir dans la biographie de Cabu par Porquet, là, c'est pas du tout le même tabac. Donc je dirais que la justice, elle est malheureusement le reflet de la société. Et effectivement, on risque dans 20 ans d'avoir la continuité de ce coup de tabac. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. L'autocensure, c'est compliqué. En termes d'histoire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que c'est un objet fluctuant. Je n'étonnerai personne en disant que aujourd'hui, la représentation et la parole sur les femmes est quelque chose de polémique. Eh bien, faites l'expérience. Je n'ai pas fait le comptage définitif, mais faites l'expérience. Et regardez le corpus satirique représentant Marine Le Pen et le corps féminin de Marine Le Pen en 2012, et faites le même constat en 2017. Et vous verrez que le corps de Marine Le Pen, en 2017, disparaît derrière sa tête. C'est-à-dire, pas toujours, mais la proportion est absolument sans équivoque. Et finalement, on n'attaque plus Marine Le Pen sur sa féminité. Alors, tant mieux, tant pis, j'en sais rien. L'intérêt de la caricature, c'est de se poser la question, justement.
Qu'est-ce que vous en...
Est-ce qu'on l'a déjà attaqué sur sa féminité? On l'a plutôt attaqué du fait de qu'elle était la fille de Jean-Marie. Enfin, elle venait de là, elle venait de cette extrême droite-là. Elle a essayé de s'émanciper de ça, mais en fait, un peu
les
raté.
Premières caricatures sont très différentes.
Ah oui, ah oui, oui, oui.
Quand
oui,
elle apparaît sur la scène politique.
Je pense immédiatement à un dessin de Riz qui avait caricaturé Marine Le Pen en train de se raser la moustache. En fait, c'était pas vraiment la moustache. Oui, c'est vrai. Mais on peut faire ça aussi sur un homme.
Mais est-ce qu'on peut dire que... Je repense, vous l'avez peut-être lu dans Le Monde il n'y a pas si longtemps, il y avait quelque chose de passionnant sur le second degré qui est en train de disparaître, en fait. En tout cas, quelle forme de second degré. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui ne font plus rire, en fait? Est-ce qu'il y a, pardon de le dire comme ça, Laurent Bill, une espèce de mode aussi dans les choses qui font rire à un moment et qui ne font plus rire à un autre moment, quitte à ce que ça revienne? Ça existe, ça, ou pas?
Je pense surtout qu'aujourd'hui, il y a une grande culture de la blague. C'est-à-dire de la chose tiède, voilà, de la chose qui n'attaque pas, qui n'attaque plus, et que tout le monde, c'est l'explosion de l'infotainment, tout le monde fait de la blague, et finalement le rire dans sa finalité est un petit peu piraté de l'intérieur, avec une extrême droite qui fonctionne à front renversé complètement et qui s'approprie l'esprit soi-disant corrosif, etc., ce qui est quand même assez fascinant, et avec aussi un oubli de la mission première de ce qu'est l'image satirique, à mon sens, c'est-à-dire de lutter contre la différence. Et lorsque, par exemple, il y a eu toute la polémique autour du dessin du petit Aylan, le but du jeu d'un dessin satirique, c'est de nous faire re-regarder le drame de l'émigration et les cadavres d'enfants qui viennent et qui s'enchaînent dans l'info en continu et qui finit par nous saturer le regard. Et bien, de ce point de vue-là, la caricature, c'est un réveil de l'œil. Voilà. Et ça, je pense qu'on a effectivement un peu tendance à l'oublier avec le côté blagounette qui corrompt un petit peu toute l'expression médiatique du moment.
Allez, il est temps d'aller faire un tour au standard. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Brigitte, on vous écoute.
Oui, alors, lorsque j'ai défilé avec des amis le 11 janvier 2015, sur le panneau que je brandissais, je n'avais pas écrit « Je suis Charlie », mais j'avais écrit un rappel à la loi, 2. juillet 1881, je répète bien 1881, abolition du délit de blasphème. Et beaucoup de gens autour de moi étaient étonnés de l'ancienneté de ce droit et prenaient mon panneau en photo. Et je pense qu'il faut absolument rappeler sans cesse ce droit chèrement acquis il y a 140 ans et qui est valable pour toutes les religions, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent.
Merci pour votre témoignage, Brigitte. Laurent Dill, c'est pour vous ça, l'idée qu'il y a un rappel à la loi, mais c'est aussi ce que vous dites d'ailleurs en introduction dans cette édition augmentée. C'est fou, mais c'est comme ça, il faut redire comment ça marche, il faut redire le droit, il faut redire le code,
oui, mais
il faut réexpliquer ces choses-là.
À l'attention de cette auditrice, les choses ne sont pas si simples, parce que un an après la loi du 29 juillet 1881, naissait la loi du 1er août 1882, qui était une loi d'outrage aux bonnes mœurs par l'image, et qui allait servir pendant 30 ans mener les caricaturistes politiques devant les tribunaux. Donc, cette conquête du droit à la caricature, cette conquête de la possibilité du blasphème satirique à l'écrit ou à l'oral ou visuel, ça a été une lutte qui a été menée sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et moi, j'ai été très séduit par l'éditorial de Riz, non pas de ce matin, mais de la semaine dernière, dans lequel il dit « Charlie Hebdo ne s'est jamais vu comme un journal qui aurait la prétention d'écrire l'histoire, alors que pourtant, même sans le savoir, il l'écrivait un peu quand même ». Bah voilà, là il a résumé pour moi ce qui est 35 ans de ma vie, c'est-à-dire essayer de voir le matériau satirique sur un temps très long et voir ce qui revient. Et malheureusement, la censure et les attaques envers les caricaturistes, ils reviennent, elles reviennent tout le temps.
Mais c'est toujours un peu étonnant d'imaginer qu'il faut donner des outils de compréhension, en fait, désormais, qu'il faut redonner des outils de compréhension. On l'a fait, ce travail pédagogique, on l'a fait après 2015, effectivement, pour expliquer des choses, et y compris dans les écoles ou ailleurs. Vous dites non avec la main, Laurent Bill, je vais poser la question à Coco d'abord.
On l'a fait et on le fait encore, parce que après l'attentat de Charlie, on a reçu près de 10 000 dessins d'enfants, et ces dessins, en fait, ont été décortiqués, sélectionnés pour en faire un outil pédagogique, et cette association s'appelle DCL, Dessiner, Créer, Liberté, et on a notamment Séverine Théot qui s'occupe de la de l'association avec Agathe André, qui vont dans les écoles justement décortiquer les dessins envoyés par des enfants, mais aussi la caricature. Qu'est-ce que c'est ? Parler de Charlie 712, c'est-à-dire le numéro qui a fait le procès des caricatures, le dessin de Cabu. Et cet échange ne se fera avec les jeunes qu'en dialoguant, qu'en regardant aussi ce qu'ils ont dans la tête. Parce que moi, j'ai pu assister un jour à une rencontre avec une classe où j'ai entendu un gamin peut-être de 13-14 ans qui disait « Ah ben, un intégriste, c'est quelqu'un qui veut s'intégrer. » Donc c'est vrai qu'à partir de quelque chose comme ça, on peut se dire qu'il y a un boulot énorme. Et ce boulot, il est à faire dans le journal, mais il est aussi à faire auprès des écoles où votre travail, sans arrêt, comme vous le disiez, rappeler, c'est jamais inutile.
Alors moi, il se trouve que très vite, j'ai été prof en Seine-Saint-Denis pendant 20 ans, à Saint-Denis précisément, et que, mis à part la période courte de l'après-Charlie, qui a été absolument passionnante, et où les élèves étaient en questionnement et où on a eu des cours extraordinaires, il est apparu que la caricature a fait un recul à l'école absolument considérable. Alors autant les CLEMI, c'est-à-dire les banques de ressources pour les profs, ont véritablement fait le boulot, autant quand on voit les nouveaux programmes de Souad Hamada, je cherche. Mm-hmm. Et quand on voit la nouvelle génération de manuels, des nouveaux programmes, et qu'on la compare avec ce que disait le ministère de l'Éducation nationale il y a 5 ans, c'est une honte.
Alors, est-ce que votre bouquin traverse les écoles ? Est-ce que quand même cet outil-là est utilisé comme tel ou pas du tout ?
Non.
Je
veux dire, les profs s'emparent de ce qu'ils veulent, mais les profs, ils suivent des programmes. Et à partir du moment où vous avez la caricature dans les manuels scolaires qui est cantonnée à Daumier, évidemment, c'est très bien. Enfin, je veux dire, j'adore Daumier, c'est ma vie. Mais je veux dire, il faut faire de la caricature actuelle avec les adolescents. Il faut leur montrer en quoi c'est un véritable c'est un nettoyage de l'âme. C'est caustique, la caricature. Il faut que ça les fasse rire.
Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Dominique.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Voilà, effectivement, à part le Canard Enchaîné et les Charlie Hebdo, qui sont, que je sache, n'ont aucun soutien financier, se débrouillent tout seuls. Il y a peut-être l'UMA aussi. Le reste des journaux, je pense que l'autocensure, ça dépasse de loin la simple caricature, simplement les interventions, les interprétations politiques de certains faits, de certaines situations graves. Je pense que des apologies sont faites dans d'autres journaux que je ne citerai pas, qui eux sont achetés par des milliardaires de on ne sait où, et qui s'auto-censurent de toute façon. Même des journaux qu'on pourrait croire de gauche, avec un tout petit G, s'auto-censurent de toute façon. Sans ça, ils sont lourdés. Et le milliardaire propriétaire ne va pas tolérer ça. Et ça va dans le sens de la pensée unique, de la bien-pensance. Et puis je dis aux gens que Charlie Hebdo dérange, ne l'achetez pas. Voilà.
Mais qui est gentil, Dominique.
Mais Dominique.
Ça fait plaisir, Dominique.
Voilà, foutez-nous la paix, vous voulez...
Et en même temps, voilà. Moi ce qui...
Je ne veux citer personne dans cette presse de...
Pardon de vous interrompre, Dominique, mais moi je suis toujours étonnée par ça aussi. Effectivement, si on n'aime pas, on n'achète pas. Enfin, je veux dire, personne n'est obligé de quoi que ce soit. Enfin, c'est toujours un débat qui me semble un peu curieux, non ? Est-ce que vous aussi, ça vous laisse un peu...
Comme je vous disais tout à l'heure, Charlie, c'est un journal papier à la base qui s'adresse à ses lecteurs, à son lectorat, qui paye pour avoir son contenu. Aujourd'hui, avec le hors-limite d'Internet, on peut tout trouver et du coup, des gens qui ne sont pas acheteurs de Charlie se retrouvent à le lire et ont pas un œil peut-être affûté, une critique et tout de suite se sentent un peu « Waouh, c'est... » Mais ils regardent quand même. Et après, s'ils aiment pas, ils peuvent détourner le regard. Mais c'est vrai, je suis d'accord.
Il y a des choses qu'on entend, Laurent Bille, quand on veut critiquer la caricature. C'est « Ah ouais, mais c'est vrai que ça peut être drôle, mais c'est pas le moment. »
C'est jamais le moment.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est un jour le moment, de toute façon, en soi, quand on y songe, d'une irrévérence ou d'une caricature ?
Je veux dire, la culture républicaine, la culture de la liberté d'expression, c'est toujours interroger la norme. Et l'interroger la norme, c'est interroger soi-même. Moi, je disais tout à l'heure que j'avais été prof. On cherchait à savoir comment on allait pouvoir faire, à moyen terme, vers le mois d'avril, pour réanimer ce qui était en train déjà un petit peu de disparaître. Mmh. Moi, j'ai proposé aux collègues de faire une expo de caricature des élèves. Ils m'ont dit, c'est formidable. Je dis, à condition, évidemment, qu'ils auront la possibilité de nous caricaturer. Ah ben, il n'y a plus personne. Mais je veux dire, c'est encore une fois, c'est sidérant.
Aurélie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Aurélie, on vous écoute.
Alors moi, je m'interroge sur la censure, mais plus la censure sur les réseaux sociaux, type Facebook, qui peut entraver la liberté d'expression. Je prends pour exemple la peinture de Gustave Courbet, L'Origine du Monde, qui est censurée, ou des échanges que j'ai pu avoir avec des amis au sujet de l'Iran, il y a quelques années, des échanges culturels des photos qui ont été censurées. Et je cite Laura Poitras, qui avait réalisé l'admirable documentaire de Snowden, qui parlait de la plus grande privation de liberté de tous les temps, à savoir le contrôle par les GAFA et les États-Unis également, des informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Donc je m'interroge sur cette censure. Voilà.
Merci Aurélie pour votre remarque, Coco, là-dessus.
Sur Gustave Courbet, c'est le grand paradoxe de Facebook, c'est que à la fois ils censurent une œuvre d'art comme L'Origine du Monde, et en même temps on peut trouver dessus des vidéos de décapitation ou des terroristes qui font des Facebook Live. Donc c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe, et que les GAFA c'est un vrai problème. Mais c'est comme le disait Dominique tout à l'heure, c'est des trucs qui sont plein de blé, plein de pubs, qui pensent qu'ils peuvent tout faire et qui sont américains, là où il y a un puritanisme règne. Donc c'est vrai que quoi faire, ils sont très puissants.
Ils viennent d'ailleurs, en effet, après notre maîtrise de ça est encore un autre problème. Tiens, voici un de vos confrères. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bienvenue, Laurent. Vous êtes dessinateur de presse et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Donc, je suis dessinateur de presse, moi, pour des quotidiens sur l'est de la France. Cabu disait, plus je dessine, plus je dénonce la connerie et plus j'ai l'impression d'en voir des cons autour de moi. Donc, quels sont un peu les remèdes pour lutter, quels sont les remèdes un peu pour lutter contre ce sentiment de vacuité des fois qui nous envahit? en presse quotidienne, régionale, on est plus confronté à l'autocensure des rédactions qui sont un peu frileuses par rapport à leurs annonceurs. Je pense que c'est pas le cas à Charlie, mais la pression vient beaucoup plus de l'extérieur, j'imagine.
Mais est-ce que, Laurent, j'ai une question subsidiaire avant que Coco prenne la parole. Justement, est-ce que vous savez ce qu'on va vous refuser, en gros, et du coup vous n'y allez pas? Ou est-ce que vous allez mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud et vous essayez de passer des choses? Comment ça se passe en fait?
Je pense que je dois avoir beaucoup de cornes sur les mains à force, parce que je pratique un peu la technique du dessin martyr, à savoir que souvent j'envoie un dessin qui ne peut que se faire refuser, et derrière j'essaie quand même de faire passer des choses qui me plaisent bien. Mais des fois on recommence une fois, deux fois, trois fois, et je sais les sujets qui vont être casse-gueule, et maintenant ça prend une propension au fait qu'il y a même des mots interdits ou des sujets sur lesquels ils préfèrent me dire non, là on laisse tomber, on part sur autre chose.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sans que je vous mette mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'il y a un exemple?
Alors, un exemple, il y a quelques temps, je devais faire le sujet, c'était les enfants qui se mobilisent pour le climat. Et donc, j'avais dessiné Bolsonaro et Trump avec une espèce de globe sur la tête, comme ça, qui regardait vraiment ailleurs. Et Greta Thunberg qui disait, on se demande qui est l'autiste ici. Et donc, le dessin, moi, je pensais que, je me suis dit, bon, il est pas trop violent. Et donc, le chef m'a rappelé pour me dire, écoute Laurent, ça va pas aller, on n'a pas le droit de dire le mot autiste, trouve autre chose. J'ai dit, comment ça, on n'a pas le droit de dire le mot autiste? Il me dit non, j'ai dit, mais t'as beaucoup de mots interdits comme ça dans ta novlangue. Et il me dit oui, effectivement, il y a donc autiste, schizophrène, etc. Il commence à dérouler une petite liste comme ça, et j'ai peur qu'avec les années, cette liste va continuer à s'étoffer.
Avant de donner la parole à Coco, Laurent, j'ai une dernière question. Est-ce que si vous, parce que je posais la question tout à l'heure en lancement, qui a redessiné un petit Mahomet depuis ces 5 dernières années? J'ai envie de dire personne, je voudrais pas te dire de bêtises. Est-ce que ça fait partie des choses? Si vous dessinez un petit Mahomet, est-ce que vous êtes sûr sûr que dans la foulée, le dessin vous revient.
Il y a des chances. Enfin, comment dire, personnellement, je m'interdis rien à partir du moment où c'est drôle. Et malheureusement, dans mon bureau, je suis mon premier public, donc j'ai pas tellement de recul par rapport à ça. Mais voilà, après, c'est un dialogue qui s'entame avec la rédaction. Si ça se justifie quelque part, voilà, je sais pas quel sera le contexte, mais effectivement, je pense qu'en général, la frilosité a augmenté dans les rédactions, et moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, et j'ai vu les budgets réduire avec les espaces de liberté au fur et à mesure.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Laurent Coco, là-dessus, sur votre confrère de la PQR, qui fait, au fond, le même travail, et en même temps, un travail très différent. C'est compliqué de dessiner pour le plus grand nombre, en fait, quand on est de la presse quotidienne régionale.
Oui, déjà, j'ai envie de dire, pauvre Laurent, tout mon soutien. ce qui est difficile, c'est que en fait le dessin satirique, c'est pas qu'un gag, c'est pas qu'un dessin d'humour, c'est aussi un dessin d'opinion. Et ces opinions peuvent être fortes, tranchées, voire trash. Et c'est vrai que
c'est le principe d'une opinion théorique.
C'est le principe d'une opinion, c'est d'ouvrir un débat et la discussion. Dès lors que on empêche cette discussion parce qu'il y a un mot qui plaît pas, bah là c'est de la censure. C'est ce que j'estime être de la censure. Et enfin. C'est pas terrible, quoi. Chercher à faire en sorte que ça plaise au plus grand nombre, c'est pas le but du dessinateur de presse. Le dessinateur de presse, il est là pour critiquer, bousculer, déranger et justement ouvrir cette plateforme de discussion qui permettra de parler d'un sujet, même si c'est un sujet qui est difficile, comme on le voit souvent, par exemple, les dessins sur la mort. Mmh. Vous parliez du petit Hélène, par exemple. Alors, c'est sûr qu'on parle derrière ce dessin, on parle de la crise des migrants, mais parle aussi de quelque chose qui est extrêmement dur à entendre pour les gens, visiblement, c'est la mort d'un enfant. Mort plus enfant, déjà, c'est des trucs qui sont un peu épidermiques, c'est des trucs que les gens n'aiment pas qu'on dessine ça, mais il faut pourtant bien le faire, puisque cette actu, nous, on ne l'invente pas, elle s'offre à nous, on travaille à partir de l'actualité, et à partir de ce moment-là, elle devient un objet pour que nous, on puisse ouvrir un terrain de discussion, à savoir la crise des migrants. Ils arrivent en Europe pour pouvoir avoir une vie meilleure et qu'est-ce qu'on leur offre? Finalement, en France, vous voyez pas grand-chose.
Laurent Bill, sur cette espèce de glossaire qui ne porte pas son nom, qui est désormais fait de mots interdits.
RIS, ce matin, couille molle, enculé, pédé, connasse, poufia, salope, trou du cul, pin d'huit, sac à foutre. Écrivez ces mots sur votre compte Twitter, et aussitôt, 10 000 petites orquemadas vous jetteront au bûcher.
Ouais. Pin d'huit, moi je trouve
ouais,
ça...
Oui, c'est vrai, mais j'ai aussi appris les sensibility readers que vous voyez en interview 15, et ça, en page 15, c'est incroyable. Des gens qui, par exemple, lisent des textes et disent, estropié, non, ça va pas parce que ça va blesser tous les handicapés. Mais c'est quand même hallucinant. On arriver là, c'est impossible. Donc le seul moyen de lutter, c'est d'y aller.
La caricature, ici, c'était sérieux. Mais cela dit, c'est étonnant quand même de voir qu'aujourd'hui, la caricature est plus drôle qu'elle ne l'était à la belle époque. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas à la belle époque. Mais quand on voyait l'assiette au beurre, il y avait des dessins qui étaient vus comme des caricatures. Ce sont des dessins d'une dramaturgie. Steinlein, c'est grand joint, effarant. Donc, je dirais que toute la génération Charlie et Ciné des années 60 ont véritablement réinstauré l'irrévérence sous l'angle du rire. Simplement, le rire n'est pas que du rire. Et ce n'est pas que ça, c'est pas que de la blague, pas que de la déconnade. C'est aussi derrière, corrélé à l'actualité. L'actualité, c'est triste, c'est sérieux, c'est parfois insupportable. Et c'est justement une façon de la supporter en prenant un pas de côté.
Voilà, je vais quand même lire la fin du début de ce que vous avez lu, où Rhys dit « Faut-il se laisser impressionner par cette meute de mâchoires prêtes à vous déchiqueter ? Bien au contraire, amusons-nous à faire hurler ces loups, puisqu'il suffit de leur tirer la queue pour qu'ils se mettent à couiner. Charlie Hebdo a encore de belles années devant lui », ce qui était aussi la conclusion de cette petite tirade avec la fameuse pine d'huître. Comment vous avez réagi, vous, Coco, au New York Times et l'espèce de déflagration, pardon, que ça a été, et encore que déflagration, au fond, pas tant que ça.
Ça s'est éteint assez vite.
Ça s'est éteint assez vite.
Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, c'est vraiment des faux culs. Parce que ils reçoivent ce dessin. Bon, ils ont des dessinateurs, ils reçoivent ce dessin qui, enfin, moi, je le trouvais personnellement pas très bon. C'est plein de symbolique. Ouais. Enfin bon, mm-hmm. le dessin, c'est pas la question. Ouais. Voilà, il est là. Mais la réaction du New York Times qui quand même décide de le publier pour ensuite dire ah ben non, ça choque et on enlève le truc parce que on veut surtout pas de vagues. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très hypocrite. C'est provoquer le truc. Visiblement, c'est quelque chose, le dessin de presse, il pensait arrêter depuis un moment, mm-hmm. c'est pas possible autrement. Donc ils voulaient plus prendre de risques, ils se sont assis dans cette position confortable et ils ont pris ce dessin comme prétexte. Et bon, c'est un mauvais signal pour la démocratie, évidemment. Et pour la liberté d'expression, c'est catastrophique.
Et en même temps...
Mais est-ce que ça nous étonne de la part du New York
Times ?
Alors,
j'allais te poser la question. Est-ce que ça nous étonne de la presse anglo-saxonne, au fond, parce que la tradition du cartooning, donc des vraies planches, notamment dans les journaux du week-end, etc., ça existe vraiment. Mais la pure caricature, j'allais presque dire à la française, est-ce que ça existait vraiment dans la presse anglo-saxonne, Laurent Bille ? Là-dessus, vous êtes le grand spécialiste. Alors voilà, quand ?
Non, mais si on doit remonter aux années 1840, j'aurais beaucoup de choses à dire.
D'accord. Bon.
Moi, je voudrais rebondir, parce qu'il y a aussi le musée de la presse qui a fermé à New York. Et ça, j'en profite pour dire que malgré, là encore, des déclarations, la main sur le cœur, en 2015, il n'y a toujours pas de grand musée de la caricature en France. Il y a des petits musées formidables qui survivent dans des petits coins, mais que je sache, alors quand je dis musée, c'est pas forcément la patrimonialisation, non, c'est aussi une maison de la caricature où il pourrait y avoir des cours sur la caricature, où il pourrait y avoir des jeunes qui s'expriment, des jeunes qui rencontrent un public, mais cette fameuse maison de la liberté d'expression sur laquelle tout le monde était d'accord en 2015, ça ne posait aucun problème. Où est-elle ? Je veux pas incriminer tel ou tel ou tel homme ou femme politique. Hein, on est en municipal en ce moment. Paris est une grande ville. Mais où est-elle ?
Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
On vous écoute Pierre, allez-y.
Ben écoutez, pour ce qui est des caricatures, bon évidemment que les caricatures sont un moyen d'expression, on pourrait dire comme un autre, même s'il est bien particulier. Et il fait partie de la liberté d'expression. Maintenant ma question... Et quand même, est-ce qu'il n'est pas à certains moments dans l'histoire plus raisonnable de mettre cette liberté d'expression de côté pour des raisons de, je dirais quasiment de survie, de sécurité publique, parce que faire des caricatures c'est très bien et je suis tout à fait pour, mais quand je vois le résultat pour Charlie Hebdo, quand je vois le résultat pour certains pays du Moyen-Orient où des populations chrétiennes ont été plus qu'inquiétées, des individus tués à cause de cette affaire des caricatures qui remonte d'ailleurs pas à Charlie mais à l'affaire des caricatures danoises à Copenhague. Bon voilà, je crois qu'à un moment donné, quand on est doué pour dire les choses, il faut être aussi doué pour savoir à quel moment on peut les dire et pas les dire.
Mais est-ce que vous croyez pas que c'est aussi une forme de capitulation, du coup, Pierre, de se dire que on ne le fait pas puisque on risque d'en gêner certains, mais certains seulement et pas les autres?
Oui, mais le problème, c'est que la capitulation, seuls ceux qui ont survécu peuvent en discuter. L'équipe de Charlie, malheureusement, qui est décédée, je pense que si aujourd'hui on leur donnait la parole... Certains diront oui, ils l'auraient fait quand même. Bon, ok, peut-être. Je me pose la question, je pense pas.
Merci pour votre témoignage, Pierre Coco, là-dessus. C'est un peu ce qu'on
Pierre,
disait sur c'est jamais
sur
le moment,
c'est, pas le
ou c'est
moment,
bien le moment.
Oui, mais en fait, c'est un peu difficile à entendre ce que dit Pierre, mais tous les dessinateurs qui travaillaient à Charlie avaient des convictions profondes et faisaient leur métier pleinement. Donc, je n'aime pas parler des gens, mais je pense qu'ils n'ont pas regretté de faire leur travail pleinement. Par ailleurs, c'est quand même étonnant que Pierre nous incrimine nous, alors que en fait on fait simplement des dessins et que le dessin c'est pacifique. Alors c'est vrai que c'est sur le terrain des idées et la violence dont on a été victime et qui a tué une grande partie de l'équipe vous renverse les choses. Il faut quand même rappeler que des gens ont attaqué la rédaction le 7 janvier. Les frères Kouachi étaient des terroristes qui ont attaqué cette rédaction parce que ils ne supportaient pas le fait que des dessinateurs expriment leur opinion et notamment leur droit qui est de blasphémer. Mmh. Parce qu'en France, on a le droit de blasphémer, c'est pas un délit. Donc quoi vous dire, moi je maintiens ferme et haut que ce droit... Ce droit de dessiner librement, il faut qu'on... Si chaque terroriste vient attaquer une personne parce que ça lui plaît pas, ben dans ces cas-là, il y a plus rien, quoi.
L'envie, j'ai retrouvé, monsieur, pardonnez-moi, ce dessin de charme dans votre livre où il a l'invention de l'humour, où il y a l'huile dans la main, le feu dans l'autre. Et effectivement, c'est chez vous aussi que j'ai lu que... Faut pas confondre.
Monsieur, depuis 1815, tous les opposants politiques... progressistes ont été taxés d'irresponsables par les pouvoirs en place. Tous, sans exception.
Est-ce que... je crois que c'est chez vous aussi que j'ai lu ça, Laurent Bille, le fait qu'il y a une facilité à caricaturer les politiques, en fait. Il y a même ceux, à une époque, qui le demandaient, je vous en supplie, caricaturez-moi, hein, comme ça on parle de moi. et ça existe encore. Est-ce qu'il y a toujours ce point de passage qui traite de la religion et qui est le point de passage le plus compliqué? Je pose la question parce qu'il n'y a pas que sur la religion que vous êtes attaqué parfois. J'ai souvenir de cette fameuse une, c'était Biche, je crois, au moment, oui, de la Coupe du Monde de foot, avec un ballon de foot dans le vagin d'une femme,
la Coupe du Monde féminine.
C'était un clito.
Un clito ballon de foot.
Absolument, c'est ça, c'était le clito ballon de foot. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a toujours ce palier de la religion, en fait, ou est-ce que il y en a d'autres,
hein, ah non, désormais, mais oui, comme je vous disais, bien plus, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, bah c'est vrai qu'avant on était attaqué quand on faisait des dessins sur la religion, mais là aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des prophètes un peu partout, quoi, qui émergent à dire ah bah non, vous pouvez pas faire ça, les clitos ballons de foot, on a quand même censuré, on va en bouffer pendant un mois sur la Coupe du Monde féminine, bon bah nous ça nous faisait marrer. Et puis bon, on joue aussi avec des codes graphiques. Donc, quand on a vu un peu Pascal Pro qui censurait le truc sur son émission,
c'est vrai, oui, il y a eu aussi ce passage-là.
Ben, en fait, comment dire, Pascal Pro, il vient de là. Voilà, il vient d'un sexe féminin et il le censure. Donc, la vie, c'est ça, c'est aussi bête que ça.
Oui, cela dit, derrière ça, chez Pascal Pro, le lendemain, hein, donc Monsieur Burga, je pense qu'avec une plume, avec l'écrit, avec les dessins, on peut faire autant de mal qu'avec un fusil, on peut tuer avec. Et parfois, je suis très gêné par un certain nombre de choses. Ouais. Ce monsieur aurait sorti ça 5 ans plus tôt, c'était un tollé. Comment peut-on aujourd'hui écrire que la violence réelle et la violence symbolique de la caricature sont à mettre sur le même plan? C'est scandaleux.
Et ça veut dire qu'on n'a pas fini et que j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des émissions comme celle-ci et de remettre tout cela sur le tapis. En tout cas, merci vraiment à tous. Merci pour vos nombreuses questions. Bon dessin à merci, vous, Coco. Merci. Et bonne tentative d'explication aussi à vous, Laurent Bille. Merci beaucoup et portez-vous bien.